Salut Hugues.
Bonjour Marc.
Cher Hugues, on est sur ta terrasse, on est en face de ton jardin, il y a un avion qui passe, hein, c'est difficile d'avoir que du silence aujourd'hui, quelque part en France. Puis on a des pies là, qui bavardent au fond de ton jardin, c'est assez charmant.
C'est Hugues. Les jeunes pies qui viennent de décoller du nid qui est dans le laurier sauce là.
C'est génial. Hugues, on en est où de cet épisode? On a fait un peu tout l'aspect un peu phylogénie, d'où viennent ces gens, qui sont-ils, comment ça se subdivise, nanani, un peu l'arbre généalogique, on va dire. Qu'est-ce que tu voulais encore nous raconter sur l'efficacité de ces hyménoptères?
Eh bien, parmi les micro-hyménoptères, les toutes petites guêpes qui vont parasiter des insectes comme les pucerons, les cochenilles, etc., dont on vient de parler, aujourd'hui sur Terre, on en connaît plus de 50 000 espèces. Donc ça paraît un groupe assez énorme, sauf qu'on estime qu'il y en a entre 120 000 et 500 000 espèces. Je vous rappelle que quand on a parlé des coléoptères, on a évoqué ce chiffre incroyable de 400 000 espèces de coléoptères sur la Terre, plus que le nombre de plantes, et qu'il est probable que les hyménoptères soient encore plus nombreux que ça. C'est encore une preuve qu'on est très peu connaisseurs de la réalité des choses, mais qu'on avance pas à pas. En tout cas, en termes d'efficacité, c'est redoutable, puisque ces micro-guêpes vont venir pondre à l'intérieur des pucerons dès qu'ils arrivent. Et alors, l'efficacité, vous allez la voir au niveau de la rapidité, puisque l'incubation de l'œuf à l'intérieur du corps se passe en une seule journée, et le développement va durer seulement quelques jours. Une femelle va pondre à ce moment-là une quarantaine d'œufs par jour, et on peut atteindre, et c'est incroyable, c'est facile à voir, je vous dis, hein, si vous laissez les plantes sur pied, on peut atteindre un taux de parasitisme de 95 à 99%. Et là, ça fait partie des chapelets de pucerons sur la plante qui sont les uns à côté des autres et qui sont des réservoirs à auxiliaires. Donc c'est vraiment important de pouvoir reconnaître justement encore cet indice de présence pour bénéficier de son efficacité.
Bon, bah écoute, il me semble qu'on a fait le tour de notre épisode sur les hyménoptères, ou tu voulais ajouter quelque chose?
Bah, on aurait pu évoquer les guêpes, puisque c'est quand même un insecte que tout le monde, sur lequel tout le monde...
Que tout le monde éclate,
oui,
que tout le monde écrase.
Oui, c'est bien dommage, parce que les guêpes, il en existe beaucoup. Alors, il en existe une quinzaine d'espèces à peu près, 15-20 espèces sociales. Il en existe beaucoup plus d'espèces solitaires qui vont tout avoir en commun, d'abord comme les restes des hyménoptères, d'être floricoles à l'état adulte, donc de participer à la pollinisation, mais d'avoir des larves carnivores, comme on vient de l'évoquer, contrairement aux abeilles. Et là, il y a des modalités tout à fait intéressantes de chasse des insectes, puisque d'abord, du fait de leur nombre, elles vont avoir une action sur le milieu, et notamment du fait que l'essentiel de leur nourriture soit des chenilles, des mouches et éventuellement des cadavres. Elles vont donc nettoyer le milieu des organismes qui sont morts, mais aussi chasser et limiter la pression sur les plantes. Donc les guêpes, malgré la réputation qu'elles trimballent...
D'emmerdeuses dans les pique-niques.
Eh bien, c'est dommage parce qu'il n'y a que deux espèces susceptibles de faire ça,
ouais.
Et les autres ne
la
s'approchent pas.
La guêpe germanique.
Et la guêpe commune, tout à fait, mais alors ni le frelon, ni les polistes, ni les guêpes solitaires viennent dans ce genre de moment. Et puis elles viennent simplement parce qu'on a réuni les deux produits qui les attirent, c'est-à-dire du sucre et du cadavre. Le jus de fruits et les tranches de jambon. Pour elles, elles voient ça comme un produit sucré pour nourrir les adultes, un produit carné pour nourrir les larves. Et alors, il y a un argument majeur en faveur des guêpes qu'il faut rappeler, c'est que sans guêpes, on ne peut pas produire de vin. Alors là, s'il y a un argument qui peut porter en France, et notamment auprès des viticulteurs et des jardiniers qui ont des treilles et qui se plaignent que les guêpes et les frelons, qui sont simplement des grosses guêpes, viennent consommer leurs raisins, et bien il faut se rappeler que lorsque les guêpes justement se posent sur le raisin et mordent le grain de raisin, elles vont y déposer un peu de salive. Et dans leur salive, il y a toujours de la levure de bière, Saccharomyces cerevisiae, cette moisissure fabuleuse qui transforme tous les produits qu'on adore. Comment ?
La bière ?
La bière, tout à fait, par exemple, mais le vin, le pain, etc., c'est la même levure. Et en déposant cette levure sur le raisin, elle va provoquer une première fermentation sur pied qui permet d'avoir une vinification de qualité. C'est-à-dire que si on enlève les guêpes, on a longtemps cru que c'était les abeilles qui faisaient ça, et en fait, ce sont les guêpes. Et donc, si on enlève les guêpes, si on tue toutes les guêpes, ce qui est vraiment problématique, c'est que les vignes ne seront moins protégées, puisque ce sont des prédateurs et des chasseurs, des ravageurs des vignes, et le vin ne sera pas de la même qualité ou ne sera plus. Donc on a tout intérêt à faire une petite place à ces petites bestioles noires et jaunes tout à fait intéressantes.
T'es quand même un malin, tu vois tout de suite comment ça marche en résumé. C'est... Et si on, oui, si on n'a plus de vin, là les gens ne sont pas contents.
Et ben on trouve les arguments là où on peut, là où et ils existent et là où ils impactent.
Exact.
Alors évidemment, il faut peut-être aussi dire que les frelons sont des grosses guêpes et ne sont pas plus agressives, ne sont pas plus dangereuses. Au même titre que les bourdons sont des grosses abeilles, bien les frelons sont des grosses guêpes. Et le frelon d'Europe, qu'on qualifie d'indigène et de naturel ici, est arrivé d'Asie, puisque tous les frelons de la planète sont asiatiques. Et ce frelon est probablement arrivé il y a 8, 10, 12 000 ans, on ne sait pas bien, peut-être bien même au travers des déplacements des humains. Et les nouveaux frelons qui arrivent, comme le frelon à pattes jaunes qui est arrivé, ou d'autres qui sont susceptibles de rentrer en Europe, viennent tous d'Asie.
On rappelle que ce que tu viens d'appeler, je t'ai fait une blague hier là-dessus, le frelon à pattes jaunes, en fait, c'est le nouveau nom. C'est comme ça qu'il faut appeler le frelon qu'on appelait autrefois le frelon asiatique, qui est un terme qu'on n'utilise pas parce que c'est pas gentil pour les Asiatiques. C'est comme ça que ça marche. Hein. Donc, on préfère dire maintenant le frelon à pattes jaunes, qui est ce frelon invasif tellement redouté des apiculteurs, puisque quelques frelons sont capables d'exterminer une ruche de 40 000 abeilles en quelques heures, en fait.
Oui, alors c'est... Le frelon à pattes jaunes, effectivement, alors nous on l'appelle à pattes jaunes parce qu'en fait tous les frelons sont asiatiques et que ça n'a pas de sens de l'appeler asiatique.
Il a un joli nom scientifique, on va peut-être le rappeler, c'est le frelon de velours.
C'est Vespa velutina et là c'est la sous-espèce Nigritorax, qui a un thorax noir. Donc c'est Vespa velutina Nigritorax.
On rappelle que notre frelon européen qui est Vespa crabro, si je ne dis pas de bêtises, il a une petite partie rouge un peu entre le thorax et l'abdomen. Et le frelon à pattes jaunes, je vais moi aussi me mettre à la page, il est beaucoup plus sombre, beaucoup plus noir. C'est pour ça qu'il s'appelle Nigritorax. Et il y a beaucoup moins de jaune, quoi. Enfin bref, pour qu'on les reconnaisse facilement.
Alors c'est simple. La tête, le thorax et les pattes du frelon européen sont rousses. L'abdomen est jaune avec des marques noires. Alors que chez le frelon à pattes jaunes, la tête, le thorax et l'avant de l'abdomen sont noirs. Il a une bande orange sur l'abdomen et le bout des pattes est jaune. Voilà, évidemment, là je viens de le dire un petit peu vite, mais quand vous avez les deux photos à côté, c'est un cheval et un zèbre. Ça se ressemble absolument pas, quoi.
Ok, tout ça c'est bien noté. Pourquoi tu nous parlais des frelons? Tu disais qu'ils viennent tous d'Asie. C'est quoi leur rôle dans les auxiliaires de culture?
Eh bien, ce sont des guêpes, donc l'essentiel de la nourriture, ça va être les insectes. Et là, on parlait du frelon à pattes jaunes qui est une nouvelle tare pour l'apiculture, mais qu'on a tendance à placer comme un bouc émissaire. En fait, ce n'est pas le principal problème, c'est un problème dans un contexte particulièrement perturbé. Le problème des abeilles mellifères, c'est le même problème que l'ensemble des autres insectes et de la biodiversité globalement. C'est la disparition des habitats, c'est la pollution des milieux, c'est la perte de ressources. Et donc, tous ces éléments mettent en stress les colonies. Et quand un prédateur arrive par-dessus pour venir cueillir les insectes qui sont affaiblis par ce contexte environnemental extrêmement stressant, eh bien, on en subit les conséquences. Mais naturellement, ça n'est pas son comportement normal d'aller chasser spécifiquement des abeilles de ruche. D'ailleurs, on se rend compte qu'il y a une grosse différence entre les milieux urbains, les milieux agricoles ou les milieux naturels. Les proies du frelon à pattes jaunes ne sont pas les mêmes. Naturellement, c'est plutôt des guêpes qui va chasser ou des mouches, et pas forcément des abeilles de ruche.
Très bien. Est-ce qu'on a fini nos histoires d'hyménoptères et en quoi ce sont des auxiliaires de
culture ? Non, alors je pense qu'il faut au moins qu'on raconte l'histoire rapide des pompiles, qui sont des guêpes souvent sombres, souvent noires, parfois un peu colorées, qui sont spécialisées dans la chasse des araignées, et des araignées parfois beaucoup plus grosses qu'elles. Peut-être que vous avez déjà vu des grosses guêpes bleues métalliques énormes qui font plusieurs centimètres de long, qui attaquent des mygales sous les tropiques, des grosses mygales velues, notamment en Amérique du Sud, on appelle ça des pepsis. Eh bien, on a les mêmes en France, en plus petit, évidemment. Donc, c'est la famille des pompiles qui vont rentrer, pour certaines, dans les trous, dans les retraites des araignées, les piquer pour les paralyser, comme le font les sphégiens, dont on a parlé tout à l'heure, les ancêtres des abeilles, et vont les transporter. Alors là, comme elles sont beaucoup plus lourdes, c'est rare qu'elles les portent, les transporter au sol pour les amener dans un trou. Cela dit, il y en a certaines qui les portent. Alors, pour faciliter le transport, elles vont leur couper les pattes, ce qui va limiter le poids et faciliter le transport et surtout éliminer une partie qui est finalement assez peu nutritive, comme on l'a déjà évoqué. Et elles vont les stocker dans un trou et la larve va les consommer. C'est toujours très impressionnant de voir ces petites bestioles, ces petites guêpes transporter des araignées qui sont parfois 2, 3, 4 fois plus grosses qu'elles, quoi.
C'est ce que j'allais dire, j'ai les photos sous les yeux là, de ce dont tu parles et ça me paraît incroyable que les araignées qui sont pourtant ces incroyables prédatrices se fassent bouffer par des animaux qui sont 3-4 fois plus petits qu'elles, en plus en venant les chercher dans leur logis.
C'est assez dément, c'est assez dément.
Les pompiles, donc ces bestiaux s'appellent les pompiles.
Les pompiles, tout à fait.
Très bien, Hugues. Cette fois-ci, on a fini nos histoires d'hyménoptères. Tiens, je vois que tu m'as mis une fourmi. Nous qui sommes les rois de la digression, on a commencé notre série en parlant des ailes. On va la finir en parlant des ailes parce qu'une des infos les plus belles, les plus précieuses que tu m'as apportées en relisant, en me faisant l'honneur et en me rendant le grand service de me relire les émissions que j'ai faites pour France Culture sur les abeilles sauvages, c'est toi qui les as relues et tu as apporté beaucoup de détails que j'ai intégrés. Un de ces détails que j'ignorais concerne les ailes des reines de fourmis. Est-ce que tu peux, tu vois, finir cet épisode en nous reparlant des ailes chez les fourmis? Il se passe quelque chose d'extraordinaire concernant leurs ailes, car comme chacun sait, en général, les fourmis n'ont pas d'ailes. Mais pas toujours.
Alors justement, les fourmis n'ont pas d'ailes. En réalité, tous les insectes ont des ailes. Mais dans tous les ordres de néoptères, on avait parlé des paléoptères, les éphémères, les perles et les libellules, les odonates, donc ça exclut ceux-là. Dans tous les ordres de néoptères, c'est-à-dire les coléoptères, les diptères, les hyménoptères, les lépidoptères, etc., etc., dans tous les ordres, il existe des formes aptères, sans ailes. C'est-à-dire, ce n'est pas des insectes peu évolués, c'est au contraire des insectes qui ont perdu leurs ailes au cours de l'évolution pour une autre adaptation. On appelle ça une régression évolutive. De la même manière que le dauphin n'est pas un mammifère primitif qui n'a pas encore de poils et qui n'a pas encore de pattes. C'est un mammifère évolué qui a perdu ses poils et qui a perdu ses pattes pour s'adapter à un autre milieu. Et donc voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des papillons sans ailes, il y a des guêpes sans ailes, il y a des coléoptères sans ailes. Et pour revenir aux fourmis, donc les fourmis ont bien des ailes. Sauf qu'on a l'habitude de voir des ouvrières qui ne sont pas des individus complets. Ce ne sont pas des mâles ou des femelles complets. Ils sont avortés et pas complètement développés d'un point de vue sexuel et d'un point de vue morphologique aussi, puisqu'il leur manque la paire d'ailes qui va être utilisée dans l'accouplement pour que les sexes se rejoignent, les essaimages des abeilles. On utilise parfois aussi ce nom pour les fourmis. Et seuls donc les mâles reproducteurs et les femelles reproductrices, qui sont les pondeuses, les fondatrices, qu'on appelle parfois les reines, sont pourvues d'ailes. Mais les ailes leur servent donc au déplacement. Une fois qu'elles vont être fécondées, elles vont retomber au sol.
Ah, t'es passé un peu vite sur l'aspect le plus poétique quand même, ces nuages nuptiaux là qu'on arrive à observer. Enfin, t'es passé un peu vite sur cette belle affaire quand même.
Ben, alors, c'est souvent des grosses sphères qui se déplacent de plusieurs, parfois mètres cubes, qui se déplacent dans l'atmosphère. C'est très facile à voir en fin de journée à certaines époques. Souvent, quelques heures avant la pluie ou dans un temps un petit peu orageux. D'ailleurs, on voit souvent les oiseaux qui traversent ces espaces pour venir s'en nourrir, où on a des milliers et des milliers de mâles et de femelles qui volent ensemble. D'ailleurs, quand, si vous avez eu l'occasion de tomber sur une sortie de fourmilière lors de l'essaimage des adultes, c'est assez impressionnant puisqu'on a des milliers d'individus qui sortent à chaque fois. Et ça, c'est plusieurs fourmilières qui vont se réunir. Donc voilà, on a des nombres incroyables de bestioles qui sont en train de voler entre elles.
Oui, alors voilà, on voulait finir cet épisode sur les ailes parce que qu'est-ce qui se passe dans le cas des fourmis ? C'est toi qui me l'as appris, c'est qu'en fait elles s'arrachent leurs propres ailes, si j'ai bien compris.
Une fois qu'elle a fait son vol nuptial, la femelle, la pondeuse, donc les mâles vont mourir assez rapidement, et la femelle n'a plus besoin d'ailes puisqu'elle va s'installer dans une fourmilière et elle ne ressortira pas de cette fourmilière. Et donc ce qu'elle va faire en se posant au sol, c'est qu'elle va se retourner, chez la plupart des fourmis, elle va s'arracher les ailes. Ça permet...
Attends, et comment ils font pour s'arracher
les... Elles tournent la tête, elles les attrapent avec les mandibules et elles tirent jusqu'à les arracher. Elles en ont quatre, hein, deux de chaque côté. Et ça, pourquoi elles font ça ? Alors, en tout cas, nous, on essaye d'être déterministes, on essaye d'expliquer à quoi ça peut servir biologiquement. Il semblerait que ça accélère la réabsorption, la métabolisation des muscles qui ne sont plus utiles et qui sont plus reliés aux ailes. Donc ces muscles et les protéines qui sont dans ces muscles vont être transférés à la production d'œufs, puisque la femelle nouvellement fécondée va fonder sa fourmilière et commencer à avoir besoin de protéines pour pondre les premiers œufs, avoir les premières larves et espérer que la colonie puisse démarrer.
Très bien, donc je traduis ce que tu dis. En résumé, on a envie de dire que dans le vivant, rien ne se perd, rien ne se crée, tout est recyclé finalement. Y compris les muscles des ailes des fourmis. Voilà ce qu'on pouvait dire sur nos hyménoptères. Est-ce que, Hugues, on a fini de raconter nos hyménoptères dans l'optique des auxiliaires de culture ? Effectivement, je crois qu'on a parlé de
tout. Oui, on a fait déjà un petit tour sympathique.
On a fait une belle balade. Tu nous as parlé des pompiles, tu nous as parlé des guêpes, tu nous as parlé des térébrants. Enfin bref, j'invite toutes celles et ceux qui nous écoutent à bien noter tous ces noms merveilleux. Finalement, les aculéates, les apocrites. Enfin bref, tout ce voyage dans l'album de famille. Hugues, avant de te laisser... Je te pose la question classique, la question rituelle de Baleine sous gravillon. On en parlait hier au dîner. Pour toi, que signifie le titre de notre podcast Baleine sous gravillon ? Qu'est-ce que ça t'évoque ?
Alors c'est vrai que ça m'a intrigué quand j'ai vu ce nom et je me suis dit mais quel est le rapport entre une baleine et un gravillon ? Et immédiatement, alors là je suis bien au courant que la baleine n'est pas un poisson, ça m'a, et que les gravillons ce ne sont pas des rochers, mais ça m'a immédiatement évoqué l'expression « anguille sous roche ». Et je me suis dit, anguille sous roche, ça veut dire qu'il y a un problème, et un problème qu'on ne voit pas forcément parce qu'il est caché sous une grosse masse, il y a une petite bestiole qui est cachée. Et j'ai trouvé alors voilà, c'était l'explication que je m'en suis faite, que la baleine sous gravillon était un énorme problème caché par quelque chose qui n'était pas forcément énorme, mais qu'on ne voyait pas. Et c'était le paradoxe, c'est qu'on ne voit pas ce qui est caché, on voit encore moins ce qui est devant nous, même si c'est énorme. Et ça me faisait penser à l'expression inversée, on parle de l'arbre qui cache la forêt, et là ce serait plutôt l'inverse, c'est-à-dire la forêt de conifères plantés, monospécifiques, en ligne, avec absolument rien au sol, qui va cacher le beau chêne qui va remplir des fonctionnalités, lui, pour 3, 4, 500 espèces différentes. Et c'est un peu à ça que me faisait penser le magnifique nom de baleine sous gravillon.
Très bien, c'est pas mal. Tu t'inscris dans la belle lignée de ceux qui ont livré les plus jolies interprétations, sachant qu'il n'y a rien de bon, il n'y a rien de mauvais. Mmh. Chacun y met ce qu'il veut, hein, comme les titres de à peu près tout. Merci pour ça. Très bien, Hugues, on a fini nos épisodes concernant les auxiliaires de culture. Je te remercie beaucoup pour ta patience, pour tes lumières. Dieu sait qu'on a fait un marathon d'enregistrement. Et on salue les copains d'Arthropologia. Ah tiens, on va dire les prénoms de tes collaborateurs. Il y en a pas tant que ça.
Ah bah il y en a. Oh, si si, on peut le dire, mais il y en a ouais. Une vingtaine.
Pendant que tu cherches leurs prénoms, moi je voudrais quand même remercier ta femme, qui n'est autre que la directrice d'Arthropologia, qui est une asso qui juste raconte le vivant un peu comme on fait nous, et qui fait des prestats aussi, on va dire naturalistes, enfin qui fait des inventaires, qui aide les collectivités à renaturer certains endroits. Hein. C'est ça que fait Arthropologia. C'est Caroline, ta femme, que je remercie aussi pour son accueil, qui en est la directrice, et toi tu en es le directeur scientifique.
Voilà, tout à fait. Donc voilà. Il y a Caroline et Charlotte qui est directrice adjointe, et à nous trois, on assure le comité de direction. Mais alors si je dois citer tous les prénoms, j'espère ne pas en oublier, il y a Olivia, Séverine, Lucille, il y a Rémi, Bleuhen, Bénédicte, Frédéric, Yvan, Bérénice, Solène, Dany, Camille, Lucille, Marion, Sabine et Nathan qui vient de finir son service civique chez nous.
Oui, c'est drôle, Nathan, qui faisait du bruit pendant qu'on faisait une interview, le pauvre, et qui s'est fait engueuler, et je dis ça évidemment en riant, et qui avait la fameuse loupe de l'entomo suspendue au cou que j'ai pris pour une poulie de voile. Enfin bref, on va tout raconter. En tout cas, j'embrasse et je salue tous ses copains, tous ses collègues d'Arthropologia. J'ai passé un bon moment avec tout cela, surtout Frédéric qui m'a montré mille choses dans ce que je vais appeler le jardin, là, ou les 2 hectares, pareil, en évolution libre, qui est derrière l'assaut. Enfin bref, c'était vraiment un plaisir de rencontrer tous ces gens, donc je remercie tout le monde. Je te remercie toi aussi pour ton accueil.
Avec plaisir.
Et je te retrouve très vite pour de nouvelles merveilles. D'ici là, prends soin de toi. Salut, cher Hugues.
Salut Marc.
Pendant notre combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre, tu en voulais ce soir-là. Il faut que tu retrouves ça maintenant. Et la seule façon, c'est de recommencer au commencement. Tu vois ce que je veux dire ?